propriété privée et travail. L'essence subjective de la propriété privée, la propriété privée comme activité pour soi, comme sujet, comme personne, et le travail. Il est par conséquent évident que seule l'économie politique, qui a reconnu le travail pour son principe, et ne conçoit donc plus la propriété privée seulement comme une condition extérieure à l'homme, doit être considérée d'une part comme un produit de l'énergie et du mouvement réel de la propriété privée, comme un produit de l'industrie moderne, et, d'autre part, comme une force qui a accéléré, glorifié l'énergie et le développement de cette industrie, et en a fait une puissance de la conscience. Aux yeux de cette économie politique éclairée, qui a découvert, à l'intérieur de la propriété privée, la nature subjective de la richesse, les partisans du système monétaire et mercantiliste, qui conçoivent la propriété privée comme une substance purement objective pour l'homme, font dès lors figure d'idolâtre, de catholique. Engels eut raison d'appeler Adam Smith le Luther de l'économie politique. Luther reconnaissait la religion, la foi, comme l'essence du monde réel, et il s'opposait au paganisme catholique. Il abolissait la religiosité extérieure en faisant de la religiosité l'essence intérieure de l'homme. Les prêtres, qui vivent séparés du laïc, il les niait en les transférant dans le cœur du laïc. De même, la richesse extérieure à l'homme est indépendante de lui. La richesse qui ne peut être conservée et affirmée que d'une manière extérieure est abolie. Autrement dit, l'objectivité extérieure et inanimée de la richesse est supprimée. La propriété privée s'incorporant dans l'homme lui-même, désormais reconnu comme son essence. Mais alors, l'homme lui-même est posé sous le rapport de la propriété privée, tout comme chez Luther, il est posé sous le rapport de la religion. En apparence, l'économie politique, dont le principe est le travail, reconnaît l'homme. En réalité, elle s'emploie à le nier systématiquement. L'homme en tant que tel n'est plus dans un rapport de tension extrinsèque à la nature extérieure de la propriété privée. Il est devenu lui-même cette nature et cette tension de la propriété privée. Autrefois, l'homme était extérieur à lui-même. Son état était celui de l'aliénation réelle. Maintenant, cet état s'est changé en acte d'aliénation, de dépossession. Si initialement, l'économie politique fait semblant de reconnaître l'homme, son indépendance, sa spontanéité, etc. Si, en la transférant dans la nature même de l'homme, elle ne peut plus être conditionnée par les caractères locaux, nationaux, etc., de la propriété privée en tant que phénomène extérieur à la nature, si donc elle se dilate en une énergie cosmopolite, universelle, qui renverse toute barrière et tout lien pour se poser elle-même en lieu et place comme la seule politique, la seule universalité, la seule barrière, le seul lien, elle rejettera nécessairement au cours de sa dilatation son hypocrisie et apparaîtra dans tout son cynisme. C'est ce qu'elle fait, sans se soucier de toutes les contradictions apparentes où cette théorie l'entraîne, en donnant le travail d'une façon beaucoup plus exclusive, donc plus radicale et plus conséquente, pour l'essence unique de la richesse. En démontrant, à l'opposé de sa conception initiale, que les conséquences de cette théorie sont hostiles à l'homme. Et finalement, elle porte le coup de grâce à la rente foncière, dernière forme individuelle, naturelle, de la propriété privée et source de la richesse, dont l'existence est indépendante du mouvement du travail. Devenue déjà tout à fait économique, la rente foncière, expression de la propriété féodale, est incapable de résister à l'économie politique. Mais, de Smith à Ricardo, Mill, etc., en passant par Say, l'économie politique n'accuse pas seulement une augmentation relative du cynisme, bien au contraire, à mesure que les conséquences du développement industriel apparaissent plus contradictoires aux économistes, ceux-ci s'avancent consciemment et toujours plus loin que leurs prédécesseurs sur le terrain de l'aliénation, ennemi de l'homme. Cela est dû uniquement au fait que leur science se développe avec plus de logique et de vérité. En érigeant, sous sa forme active, la propriété privée en sujet, donc en faisant du même coup l'essence de l'homme considérée par ailleurs comme l'inessentiel, la contradiction de la réalité correspond pleinement avec la nature contradictoire de leurs principes. Loin de le réfuter, la réalité déchirée de l'industrie confirme leurs principes déchirés en soi. C'est que leur principe est précisément le principe de ce déchirement. La doctrine physiocratique du docteur Kenney forme la transition entre le mercantilisme et Adam Smith. La physiocratie exprime directement la décomposition de la propriété féodale en économie politique. Mais, de ce fait, elle exprime tout aussi directement sa métamorphose et sa restauration en économie politique, à ceci près que son langage n'est désormais plus féodal, mais économique. Toute richesse se résout en terre et en agriculture. La terre n'est pas encore le capital, elle en est un mode d'existence particulier, dont la validité est censée résider dans sa particularité naturelle et exister à cause d'elle. Mais la terre est un élément universel, naturel, tandis que le mercantilisme ne reconnaissait l'existence de la richesse que sous la forme du métal précieux. L'objet de la richesse, sa matière, a donc atteint d'emblée son universalité la plus haute dans les limites de la nature. Dans la mesure où, en tant que nature, elle est aussi la richesse immédiate et matérielle. Et la terre n'existe pour l'homme que par le travail de la terre. Aussi la nature subjective de la richesse est-elle déjà transférée dans le travail. Mais, en même temps, l'agriculture est le seul travail productif. Dès lors, le travail n'est pas encore saisi dans son universalité et son abstraction. Il est encore lié à un élément naturel particulier qui est sa matière, et n'est reconnu que sous sa forme d'existence particulière, déterminée par la nature. Il n'est encore qu'une aliénation déterminée, particulière de l'homme. De même que son produit est encore simplement conçu comme une richesse déterminée, qui revient à la nature plutôt qu'au travail. Reconnu ici comme une réalité naturelle, indépendante de l'homme, la terre n'est pas encore saisie comme capitale, c'est-à-dire comme un moment du travail lui-même. C'est plutôt le travail qui apparaît comme un moment de la terre. Mais, puisque le fétichisme de l'ancienne richesse extérieure, visible seulement comme objet, est réduite à un élément naturel très simple, dont l'essence est déjà reconnue, ne fût-ce que partiellement et d'une manière particulière dans son existence subjective, il y aura nécessairement progrès, en ce sens que la nature générale de la richesse sera reconnue et que, par conséquent, le travail sera érigé en principe, c'est-à-dire dans son abstraction, dans son caractère absolu. On démontre à la physiocratie que l'agriculture, du point de vue économique, le seul justifié, ne diffère d'aucune autre industrie. Que l'essence de la richesse n'est pas un travail déterminé, lié à un élément particulier, une expression particulière du travail, mais bien le travail en général. La physiocratie nie la richesse particulière, purement extérieure et matérielle, en affirmant que le travail en est l'essence. Mais, pour elle, le travail n'est dès l'abord que l'essence subjective de la propriété foncière. Ouvrez la parenthèse. Son point de départ est le type de propriété qui apparaît historiquement comme le type dominant, déjà reconnu. Fermez la parenthèse. Seule la propriété foncière aboutit, crée pour elle l'homme aliéné. Elle en supprime le caractère féodal en déclarant que l'industrie, l'agriculture entre parenthèses, est l'essence de la propriété foncière. Mais son attitude vis-à-vis du monde de l'industrie est négative. Elle reconnaît le système féodal en déclarant que l'agriculture est la seule industrie. Il va de soi que, si l'on saisit la nature subjective de l'industrie qui se constitue en tant que telle en opposition à la propriété foncière, cette nature renferme son propre contraire. Car de même que l'industrie absorbe la propriété féodale abolie, de même son essence subjective absorbe celle de la propriété qu'elle englobe. La propriété foncière est la première forme de la propriété privée. Face à elle, l'industrie n'apparaît historiquement que comme un type particulier de propriété, ou plutôt comme le serf affranchi de la propriété foncière. Ce processus se retrouve sur le plan de l'intelligence scientifique. Quant à la nature subjective de la propriété privée, du travail, celui-ci n'apparaît d'abord que comme travail agricole, mais il s'impose ensuite comme travail en général. Toute richesse est désormais richesse industrielle, richesse du travail. Alors que l'industrie est le travail parvenu à son achèvement, que le système de la fabrique est l'industrie parvenue à sa forme parfaite, c'est-à-dire l'essence du travail, le capital industriel est la forme objective, accomplie de la propriété privée. Nous comprenons que la propriété privée peut maintenant enfin parachever son règne sur l'homme et, sous sa forme la plus générale, devenir une puissance ayant une portée historique universelle.